Amen. Est-ce que je peux voir votre Bible, s'il vous plaît? Aidez-moi, jeune homme. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Philippiens 2, 5 à 11, ça c'est le premier texte. Et le deuxième, nous lirons dans Éphésiens chapitre 1, 19 à 23. Éphésiens 1, 19 à 23, je vais reprendre pour ceux qui écrivent. Philippiens chapitre 2, 5 à 11. Et Éphésiens chapitre 19, chapitre 1, 19 à 23. Merci beaucoup. Vous avez noté? Je reprends Philippiens 2, 5 à 11. Les deuxièmes que nous lirons, Éphésiens 1, 19 à 23. Nous avons un lecteur pour nous aider.
Nous lisons Philippiens 2, 5e au 11e verset. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Qui me donne un grand amen à ces beaux textes. On y va, deuxième texte s'il vous plaît.
Éphésiens 1, du 19e au 23e verset. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 22e verset. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen.
Qui me donne notre amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de parler de l'ordre de Melchisédek. Précisément, nous parlions du message de l'ordre de Melchisédek. Et ce message, c'est l'alliance des sangs symbolisée dans le pain et le vin que Melchisédek a donné à Abraham. Parlant de l'alliance des sangs, nous avons parlé premièrement de l'alliance d'Abraham qui est le fondement aussi bien de l'ancienne alliance que de la nouvelle alliance. Comment son sang a coulé par la circoncision et le sang de Dieu par des animaux qui ont été substitués à sa place et l'alliance a été conclue, une alliance pour la terre et une alliance pour la postérité. Vous remarquerez que la plupart des nations de la terre, leur réglementation autour des nationalités joue autour de ces deux éléments, le droit à la terre et le droit du sang. Vous héritez d'une nationalité parce que vous avez un parent, c'est-à-dire c'est par le sang que vous avez cette nationalité. D'autres législations disent que tu nais dans un endroit, à cause du droit de la terre, tu as automatiquement la nationalité. Et justement, l'alliance Dieu fait avec Abraham, c'est autour de ces éléments. Autour de sa postérité et autour de la terre que Dieu lui donne. Et nous avons parlé de l'ancienne alliance, plus précisément du sacerdoce, avec tous les sacrificataires, le souverain faisait au jour des expiations, une fois par an. Et tout cela n'était que l'ombre et image du véritable, et j'allais dire de l'alliance la meilleure que Jésus-Christ est venu accomplir. Et nous avons parlé de Jésus comme étant le garant de la nouvelle alliance. C'est lui notre garantie. Lorsque la garantie est payée, le différend s'arrête. Même si je ne paye pas ta maison pendant un mois, deux mois, tu n'as pas à m'insulter parce que tu as ma garantie ou tu peux retirer quelque chose. Lorsque je vais hypothéquer ma maison, je donne ça à garantie, tu me donnes un crédit. Si je ne suis pas à mesure de te payer, tu n'as pas à m'insulter, tu n'as pas à me faire arrêter parce que ma maison est une garantie que tu peux saisir. Et Jésus est le garant de la nouvelle alliance. Il est comme pas notre dépôt, mais il est notre prix auprès du Père. Et nous avons dit que Jésus-Christ n'est pas seulement mort pour nous, il n'est pas seulement ressuscité pour nous, il n'est pas seulement pour nous aller au fil à Dieu le sang, mais il s'est assis à la droite du Père où il ne croise pas les bras, mais il exerce le ministère à notre faveur. Parce que très souvent, l'Église a donné l'impression que Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, tout s'est arrêté là. Pour le reste, nous devons nous débrouiller. Je me rappelle avoir déjà dit dans mes propres messages, Dieu a fait sa part, il a fini, nous devons maintenant faire notre part. Cela n'est pas vrai. Parce que là, à la droite de Dieu, Jésus exerce le ministère. Donc, présentement là, il continue à exercer le ministère à notre faveur. Et pendant la semaine, nous avons dit, le premier de ces ministères, c'est qu'il est notre souverain sacrificateur à cause du sang qu'il a offert, au lieu de le faire année après année, comme dans l'ancienne alliance, il a offert une fois pour toutes et il a obtenu pour nous, soulignez ça dans votre Bible, une rédemption éternelle. Quelque chose qui est éternel, que c'est quelque chose qu'on ne peut pas remettre en cause. Mais étant que souverain sacrificateur, nous avons lu le lundi ou le mardi, je ne me rappelle plus, il est ministre des choses sacrées dans le tabernacle céleste. Hébreux dit qu'il est ministre du sanctuaire et du tabernacle. Et nous avons démontré que le sanctuaire, c'est ça le tabernacle, mais en grec, sanctuaire veut dire les choses sacrées. Jésus est ministre de nos prières, de notre adoration, de nos offrandes. Lorsque nous les offrons, il les prend comme le faisait. D'ailleurs, le souverain sacrificateur avec ses fils, il embellit ses prières, il essaie de ordonner, il essaie de parfumer, de compléter ce qui manque pour enfin l'offrir à Dieu pour que cela soit exaucé. Cela veut dire que si tu as mal prié, cela ne veut pas dire que tu ne seras pas exaucé. Parce que tu as quelqu'un qui est ministre du sanctuaire et son rôle c'est d'embellir ta prière. Il y a des mots que tu ne sais pas expliquer, mais lui sait expliquer. Nous avons parlé du deuxième ministère qu'il exerce à notre faveur, à part le fait qu'il est souverain sacrificateur, il est notre intercesseur. La Bible dit c'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Parce qu'étant vivant pour intercéder en leur faveur. Si ton pasteur oublie d'intercéder pour toi, si le département d'intercession oublie ton cas, si personne n'intercède pour toi, tu as un intercesseur auprès du Père. C'est là où vous remarquerez dans la vie de chacun de nous, nous recevons des choses que nous n'avons pas demandées. Très souvent, quelqu'un qui échappe à un accident, il n'a même pas prié Seigneur parce qu'il ne savait même pas qu'un accident arriverait. Mais Jésus au ciel qui connaît toutes choses, vous ne savez pas pour que nous puissions nous réveiller ce matin, quelles sont des prières qu'il a offertes à notre faveur. Il y a des femmes qui sont allées accoucher et c'était la mort. Tout était signé dans le monde des ténèbres qu'elle mère. Mais là, Jésus a vu, il a commencé à intercéder. Imaginez que Jésus intercède. Tout ce qu'il demande au Père, il ne peut que l'obtenir. Ça, ça bâtit ma foi, ça me donne de l'assurance, de l'audace comme un lion de savoir. Des choses qui échappent à mon contrôle, j'ai un intercesseur auprès du Père. À cause de ce qu'il est, à cause de ce qu'il a fait, il est qualifié. Qu'est-ce qu'il est? Il est 100% Dieu, il est 100% homme. Il comprend ce qui se passe à moi. Il sait comment maintenant, étant que Dieu l'expliquait à Dieu. C'est ce rôle qu'il joue d'intercesseur. Auprès du Père à ma faveur. Mais pas seulement à cause de ce qu'il est. 100% homme, 100% Dieu, mais à cause de ce qu'il a fait, du sacrifice qu'il a offert à Dieu. Dieu ne peut rien lui refuser. Quelle garantie de savoir? Parce que des requêtes pour lesquelles il prie sont des requêtes que toi tu ne donnes même pas. C'est que toi tu connais, tu pries, mais il y a des choses qui échappent à ton intelligence. C'est pourquoi la Bible dit, or à celui qui peut faire, infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Parce qu'au-delà de ce que nous nous pensons et demandons, il y a des prières de Jésus-Christ qui vont au-delà de ces choses. Et le Père ne peut que l'exaucer. Quelqu'un lève la main et dit, Jésus, merci parce que tu es mon intercesseur. Nous avons parlé de notre ministère de Jésus-Christ auprès du Père, à sa droite. Ce ministère, c'est qu'il est notre avocat. Et nous avons été abondamment bénis. Le vendredi, nous avons eu 3 ou 4 frères et sœurs qui étaient des avocats. Ils nous ont expliqué en quoi consiste leur travail. Je pouvais expliquer ça avec la Bible, on n'allait pas saisir, mais ils nous ont expliqué en quoi consiste le travail. Ils parlent, ils plaident, ils défendent leurs clients. Et nous leur avons posé la question, pourquoi ils doivent le faire? Ces gens-là n'ont pas la bouche pour parler eux-mêmes. Les avocats nous ont répondu qu'ils n'ont pas des expressions appropriées. Et en plus, ils n'ont pas la maîtrise de la loi. Nous nous sommes allés à l'université pendant autant d'années. Nous avons étudié les mécanismes de la loi. Nous maîtrisons la loi et nous avons des expressions appropriées que le juge peut comprendre. Et notre question que nous avons posée à nos avocats, mais même si quelqu'un est coupable, il reconnaît qu'il est coupable, pourquoi vous avez l'audace d'aller le défendre? Il dit parce que la loi prévoit ce qu'on appelle la présomption d'innocence, jusqu'à ce que le fait soit prouvé. Jusqu'à ce que l'accusateur approuve le fait, et puisse prouver le fait, on jouit de la présomption d'innocence. Mais un autre frère, certainement lui aussi est avocat, peut-être qu'il est venu en retard ou il n'est pas sorti ces jours-là, il m'a écrit un texto avec un élément qui m'a beaucoup enrichi. Ce frère m'a dit que chaque personne, quel que soit les mauvais actes qu'il a commis, quel que soit ce qu'il est, il a droit à avoir un avocat. Il m'a dit, c'est de là où est née l'expression avocat du diable. Donc même le diable mérite un avocat. Même le diable, dans toute sa condamnation, tout ce qu'il a fait, mais il mérite un avocat. C'est-à-dire, il n'y a pas de cas où les avocats diront, non, toi, t'es mal, ton mal, tes actions tellement exagérées, on ne veut pas de toi. Donc un avocat, c'est pourquoi je disais le vendredi, on ne se défend pas auprès de son avocat. C'est votre avocat qui est votre défenseur. Auprès de l'avocat, on se confie. Si nous lui confessons, si nous confessons nos péchés, donc Jésus n'aura rien à défendre auprès du Père aussi longtemps que nous n'avons pas confessé nos péchés. Il est notre avocat à la droite du Père. Lorsque nous confessons nos faiblesses et nos péchés, il se saisit du dossier. Il va auprès du Père, devant le tribunal. Il plaide en notre faveur. Et s'il arrive qu'il ne peut pas obtenir gain de cause, s'il arrive qu'il ne peut pas obtenir gain de cause, il dit à Dieu, alors mets-le à mon compte. Et parce qu'il a déjà payé de sa propre vie, lui, juste qu'il était, il endosse cela, il prend ça à son compte. Et toi, tu es donc acquitté. Et ça, c'est un privilège énorme. Nous pouvons nous dire en nous-mêmes, c'est la fin de stress. C'est la fin de murmures et de désespoir. Parce que je sais que j'ai un avocat auprès du Père. Nous avons dit que beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de lutter parce qu'ils ont des péchés non confessés. Par ignorance, par oubli ou par négligence. D'autres simplement parce qu'ils ne veulent pas abandonner. Imaginez une fille qui vient en adultère avec un homme marié. Il tombe aujourd'hui, il va confesser. Pourquoi? Parce que demain, c'est qu'il tombera encore. Et là, nous avons besoin de renouveler notre intelligence et de savoir toutes les fois que tu vis dans le péché. C'est pour cela que Jésus est notre avocat. Quand tu vis dans le péché, au fait, et ça, je vais insister. Le Père continue à te voir en Jésus-Christ. Mais avant de continuer, je vais dire ceci. Lorsque Jean écrit ces choses, il dit ceci. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. C'est comme ça qu'il commence 1 Jean chapitre 2. Parce que c'est des choses à nature qui donnent l'impression comme si on encourage les gens à aller pécher. C'est pourquoi Jean prévient en disant, dans 1 Jean chapitre 2 verset 1, petits enfants. Petits enfants veut dire quoi? Ceux qui sont viennent de commencer la vie chrétienne de bébé. Parce qu'il parle aux jeunes gens, il parle aux vieillards, tout cela en esprit. C'est pas dans la chair. Mais là, il parle aux petits enfants. Donc le péché, c'est le domaine des petits enfants, des bébés spirituels, des gens qui grandissent, qui trébuchent encore. Il dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Pour quelqu'un ne m'écrit pas un autre texto en disant, Daddy, en disant ces choses, tu pousses les gens à pécher. Jean a déjà dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais il continue en disant, mais si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Donc il est important. J'étais en train de dire, lorsque quelqu'un tombe dans le péché, en fait, il n'a pas besoin de la condamnation de Dieu ni de l'Église. Parce que déjà, il est sous sa propre condamnation et la condamnation du diable. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à relever les faibles, à ne pas les écraser. Écoutez ceci, frère. Lorsqu'Adam est tombé dans le péché et Ève, avant même que Dieu ne vienne le juger et prononcer sa sentence, eux-mêmes déjà se sont jugés. Ils sont allés se cacher, ils ont pris des feuilles, ils se sont couverts. Et lorsque Dieu arrive, étudiez ce texte-là, prenez plusieurs versions, mettez en parallèle, étudiez. Lorsque Dieu arrive, c'est comme s'il n'était même pas au courant. Mais nous savons qu'il était au courant parce qu'il est omniscient. Il vient bonnement comme d'habitude parce que l'amour ne soupçonne point. Dieu est amour. Et il ne pouvait même pas soupçonner le mal. Lorsqu'il arrive, Adam, où es-tu? Donc à ses heures d'habitude, tu te mets là, où es-tu? Dit, nous sommes cachés. Pourquoi? Tu as mangé le fruit de l'arbre interdit. Pourquoi ils sont allés se cacher avant le jugement de Dieu? Parce qu'ils sont tombés sous leur propre jugement. La voix de leur conscience. Leur image de Dieu qui était en eux, leur homme intérieur. Les a déjà condamnés. Et le diable qui les a séduits s'est encore retourné pour commencer à les condamner. Et lorsque quelqu'un est sous sa condamnation, la condamnation du diable, c'est suffisant. L'Église n'a plus le droit de les charger de condamnation. Dieu ne les condamne même pas. Parce que Dieu les voit en Christ. Sa rédemption en Christ est totale. Mais le fait qu'il est condamné en lui-même dans sa conscience et le diable le condamne, ça brise la communion avec le Père. J'étais en train d'expliquer ce que c'est la justice. Dieu, Christ nous a justifié. Il est notre justice. La justice, c'est se tenir dans une bonne position devant Dieu, sans sentiment de culpabilité, sans complexe d'infériorité, et sans autre embarras. J'expliquais ici le vendredi. Lorsque quelqu'un a volé, il peut être fort. il peut être âgé. Lorsqu'on attrape un voleur, même un petit enfant vient lui faire comme ça. Toi là. Donc il est en mauvaise posture, il est en mauvaise position. Ça l'empêche de se défendre et de parler. Alléluia. C'est ce que le péché fait. Vous voyez, l'enfant prodigue, il est parti loin de la maison de son père, il a fait tout ce qu'il a fait. Et le jour qu'il rentre, il s'est jugé lui-même. Et lui-même a même trouvé la sentence qui lui est appropriée. Il dit, je dirai à mon père, je ne suis plus digne d'être ton fils, pas moi comme un serviteur. Qui a fait ce jugement-là? C'est lui-même. Alléluia. Et lorsque vous brisez la communion avec le père, parce que vous êtes en mauvaise position. Si tu vois quelqu'un, il vient de commettre l'adultère, il vient de voler, il vient de faire quelque chose de mal, il vient de te critiquer, mais il est courageux, il a le courage de te regarder dans les yeux. Il n'est pas normal. Parce que déjà les païens, un homme qui a menti à son épouse, ce soir-là, il se débrouille de rentrer très tard pour trouver sa femme déjà endormie. Ou encore, il arrive, il devient gentil. Hey, qu'est-ce que tu avais demandé? Qu'est-ce que tu voulais? Parce qu'il y a une culpabilité qui pose sur lui. Ou encore, il devient très méchant pour couvrir ses casquets. Il commence à crier, Ça, c'est l'homme naturel. À combien plus forte raison, nous, qui sommes de nouvelles créatures en Christ, qui sommes régénérés dans notre esprit. Lorsque nous avons confessé et nous avons péché, nous n'avons pas le droit de cacher ses péchés. Nous devons le confesser et notre avocat va auprès du Père. Mais je dis que son ministère d'avocat ne s'arrêtait pas là au niveau du péché. Il y a aussi des gens qui sont accusés injustement, comme Joseph le fut. Leur réputation est abîmée. Tout le monde sait que c'est lui-là. C'est comme ça l'histoire. Il a raison, mais il n'a pas de preuve. Il n'a pas d'argument pour expliquer. Entre-temps, ceux qui portent sous lui de faux témoignages ont des preuves. La femme de Potiphar avait la tunique de Joseph. C'était une preuve. Mais vous savez que l'histoire n'était pas vraie. Et à ce moment-là, les gens tombent dans la dépression, tombent dans la culpabilité. Les maladies commencent à les ronger. Parce qu'il sait au fait qu'il arrête. À un moment même, les gens se remettent en cause. Quelqu'un m'a dit un jour, « Pasteur, je suis entré en retraite de 40 jours pour que Dieu me révèle si je n'étais pas sorcier. » Les gens ont tellement dit, les gens ont tellement parlé, à un moment donné, il s'est remis en cause. Elle n'était pas sorcière. Mais elle s'est remise en cause elle-même. Vous savez, il y a des choses qui se font, même à l'église, là, pas seulement dans le monde. Une sœur qui n'est pas de notre église est venue me voir pour confesser. Il dit, pasteur, ça fait 10 ans que je porte un poids qui est en train de m'écraser. J'ai fait du tort à quelqu'un. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, nous prions dans une église, nous étions des intercesseurs. Une de mes collègues était fiancée à notre chef du département d'intercession qui voulait l'épouser. Entre-temps, j'avais des sentiments vis-à-vis de ses frères, moi je le voulais. J'ai sorti publiquement une mauvaise prophétie, une fausse prophétie, disant que cette fille-là était sorcière. Tout le monde a accepté la prophétie. Le fiancé l'a laissé tomber. Le pasteur l'a écouté. Comme tu ne veux pas renoncer à la sorcellerie, on l'a excommunié de l'église. Mais au plus profond de moi, je sais que c'était faux. Je l'avais inventé. Le frère ne m'a même pas épousé. Et puis ma vie, tout était bloqué. Ça fait 12 ans ou 15 ans, je suis sous un poids de culpabilité énorme. Pasteur, je ne sais même pas comment restaurer. Parce que cette soeur, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue. Mais je suis venu pour que Dieu me pardonne. Il y a des gens comme ça qui souffrent justement. Il y en a à Makala. Il y en a dans le riz ici. Il y a des gens qui ont perdu, des femmes qui ont perdu leur mariage à cause des histoires montées. Parce qu'il y a une ingéniosité au mal. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont ingénieurs en mal. Ils savent tisser des choses, organiser les choses, faire quoi? Jusqu'à ce que vous manquiez vous-même d'explications. Là, vous n'avez plus besoin de parler. Vous n'avez plus besoin de plaire. Vous n'avez plus besoin de vous apitoyer. Prenez votre cas, donnez à votre avocat. Que Jésus s'en occupe. Des années peuvent passer. Sur le plan du monde, nous avons déjà vu des jugements à titre posthume. Il y a des gens qu'on a acquittés alors qu'ils étaient déjà morts. Tout le monde connaît l'histoire qu'ils faisaient partie du groupe nazi. Mais après, les avocats ont suivi, ses enfants ont suivi. On a prouvé qu'il était accusé injustement. Et on lui rend justice à titre posthume. Il n'est plus en vie, mais on lui rend justice. À combien plus forte raison, toi qui es en vie et qui as un avocat qui est à la droite du Père. La Bible dit Jésus-Christ, le juste qui est lui-même une victime expiatoire de nos péchés. Il sait réparer ta réputation parce qu'il est ton avocat. Et lorsque j'arrive à cette dimension de vie, je n'ai plus à me battre avec les hommes. Je n'ai plus à me justifier parce que je sais que j'ai un avocat. Job a compris. Il a expliqué avec le langage humain à ses amis qu'il n'avait jamais péché contre Dieu, qu'il était resté fidèle. Au point même pour les convaincre, il dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux pour ne même pas regarder une jeune fille deux fois. Mais ses amis n'ont pas compris. Ils l'ont cloué, ils l'ont écrasé. écoutez ce que Job dit parce qu'il n'a plus d'arguments. Il dit, je sais une chose. Mon rédempteur s'élèvera les derniers. Mon avocat s'élèvera les derniers. Et lorsqu'il aura donné son dernier mot, les choses seront rétablies. Vous savez, le dernier mot, c'est quoi? Dieu a demandé aux amis de Job d'aller demander pardon et de lui offrir des offrandes. L'avocat l'a justifié. C'est le rôle que Jésus joue. Cette semaine a été très, très, une semaine bénie, avec beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons et de témoignages. Et je sais que tous ceux qui étaient là, tous ceux qui sont connectés à l'esprit de l'ordre de Melchisedec, ont reçu l'air des témoignages. Nous allons écouter des témoignages ici qui vont nous faire pleurer. Et ça sera ton témoignage. Si tu le crois, tu le prends au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, brièvement, d'ailleurs, il est déjà 12h30. Ce matin, brièvement, dans les deux textes que nous avons lus, la Bible nous explique, après que Jésus ait fini son parcours, de sa vie terrestre jusqu'à la droite du Père, le Père l'a souverainement élevé et l'a placé au-dessus de toute domination, autorité, principauté et lui a donné le nom qui soit au-dessus de tout nom. De telle sorte qu'à la mention du nom de Jésus, tous genoux au ciel, sous la terre et sous la terre fléchissent et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Dieu a pris tout le pouvoir au ciel, sous la terre et sous la terre. Pas seulement le pouvoir spirituel. Sinon la Bible allait s'arrêter aux cieux. Mais la Bible dit aux cieux, sous la terre et sous la terre. Le pouvoir exécutif y compris. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir financier, le pouvoir des médias, tous les pouvoirs. Dieu a collectionné. Il a collecté tous les pouvoirs. Il a investi dans le nom de Jésus. Et Dieu a signé un décret. Lorsque ce nom est mentionné, au ciel, sous la terre et sous la terre, tout genou doit fléchir. Et toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Mais écoutez maintenant la bonne nouvelle. Après avoir fait tout cela, Dieu nous a donné le droit légal d'utiliser le nom de Jésus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il nous a donné le droit légal. C'est nous qui contient tout pouvoir. C'est nous qui a été élevé au-dessus de tout autre nom. Vous avez suivi dans la lecture. Pas seulement qui se nomme dans les siècles où cela a été écrit. Mais la Bible dit même dans les siècles à venir. C'est un nom qui a été exalté au-dessus de tout nom. Vous verrez que chaque chose, chaque personne, chaque esprit, et même des circonstances sont des noms. Pourquoi il y a la nomenclature? Afin que les choses soient classifiées. Même des tempêtes, on leur donne des noms, on les baptise. Même des opérations militaires sont baptisées, on donne des noms. Des circonstances sont des noms. Et si quelque chose n'a pas un nom, vous avez le pouvoir, étant qu'homme créé à l'image de Dieu, de lui donner un nom. Mais tous ces noms-là fléchissent devant le nom de Jésus-Christ. J'ai dit tous ces noms-là, que ce soit le nom des esprits, que ce soit le nom des personnes, que ce soit le nom des animaux, le nom des choses ou des circonstances, le nom des maladies ou des démons, le nom des problèmes, tous ces noms fléchissent devant le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est Seigneur à la droite, à la gloire de Dieu le Père. Frères et sœurs, vous ne comprenez pas ou nous ne comprenons pas ce que ça veut dire utiliser le nom de quelqu'un. Il y a des noms qui pèsent tellement. Il y a des noms qui contiennent tellement de pouvoir. Lorsque vous utilisez ces noms, ça vous ouvre des portes. C'est pourquoi, en tout cas toutes les législations, certaines qualifient le trafic d'influence de crime. Dans certains pays, le trafic d'influence est un crime. Même là où ce n'est pas un crime, mais c'est une infraction. Et savez-vous pourquoi? Parce que le juriste, parce que le législateur sait qu'il y a des noms qui contiennent tellement de pouvoir, si on laisse les gens abuser de ces noms-là, l'utiliser n'importe comment, frères et sœurs, on peut te donner un nom ce matin-là, cet après-midi. Et demain, tu commences à circuler avec ce nom. Et avant qu'il soit 18h, tu as 100 000 dollars à main. Parce qu'il y a des noms qui ouvrent des portes. Il y a des noms qui donnent accès à certains milliers. C'est pourquoi le trafic d'influence est une infraction ou un crime. Que vous puissiez abusivement utiliser le nom de quelqu'un pour vous en servir. La loi condamne cela. Mais nous, ce n'est pas abusivement. C'est légalement que Jésus nous a conféré le pouvoir d'utiliser son nom. Que quelqu'un essaie de me comprendre. S'il arrivait simplement pour 2 semaines que le gouverneur de cette ville me donne son nom pour l'utiliser, juste 2 semaines seulement. Vous voyez la conséquence de ce qui arrive? Juste après le culte ici, j'ai fait dire au bourgmestre de Bandal et celui de Bumbu que je vais vous voir dans 3 minutes. Ils vont courir. Parce que je l'ai fait au nom du gouverneur qui m'a donné le droit légal d'utiliser son nom. Ils vont courir où qu'ils soient. Parce que je l'ai fait au nom du gouverneur de la ville. Mais maintenant là, je ne parle pas du nom d'une personne. Je ne parle pas d'un nom qui a des limites, ni dans le temps, ni dans l'espace. Je ne parle pas du nom qui connaît des frontières, qui est puissant ici dans ce pays et pas dans ce continent. Je parle du nom qui a été élevé au-dessus de l'univers. Dans le monde physique et spirituel, le monde invisible ou visible, le nom de Jésus a été exalté. Et il nous a donné le droit légal. Quelqu'un lève la main et dit, j'ai le droit légal d'utiliser son nom. Dites au voisin, ce n'est pas le trafic d'influence. Dites-lui, c'est un droit légal, constitutionnellement reconnu au ciel, que je dois utiliser le nom de Jésus. Frères et sœurs, si nous comprenons le pouvoir qu'il y a dans ces noms, frères et sœurs, des choses changeront. Et notre problème qui se pose à nous, c'est que souvent nous ne savons pas comment utiliser ces noms. Je vais y aller rapidement. Il y a 2 voies majeures pour utiliser le nom de Jésus-Christ. Le droit légal, nous l'avons. Vous pouvez avoir le droit légal. Mais si vous ne savez pas comment user de ces droits-là, ça crée un autre problème. Nous avons le droit légal d'utiliser le nom de Jésus-Christ. Avec tous les pouvoirs que ce nom contient. Mais il faut savoir comment l'utiliser. C'est ainsi que je dis qu'il y a 2 voies majeures pour utiliser le nom de Jésus. La première voie, c'est ce que j'appelle la voie sacerdotale. Écrivez la voie sacerdotale. Frère Emmanuel, Jean chapitre 15, verset 16, et j'aimerais que vous soyez attentifs à la lecture de ce texte. Jean 15, verset 16, le deuxième sera Jean chapitre 16, verset 23 à 24. Notez cela, là nous parlons du droit sacerdotal à utiliser le nom de Jésus-Christ, ou la voix plutôt, la voix sacerdotale pour utiliser le nom de Jésus. Jean 15, verset 16, frère Emmanuel, faites-moi gagner du temps, je n'en ai pas.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne.
Amen.
Amen. 16, 23 à 24.
On y va.
En ce jour-là, vous m'interrogerez vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père, il vous donnera à mon nom.
Amen.
Amen.
Le 2 textes que nous avons lus dans Jean 15 et Jean 16 nous montrent la voie sacerdotale pour l'usage du nom de Jésus-Christ. C'est Jésus qui parle. Et il dit, vous ne m'avez pas choisi, je vous ai choisi et établi, afin que vous portiez des fruits qui demeurent. Et il ajoute, ce que vous demanderez au Père en mon nom, le Père vous le donnera. C'est la même déclaration qui revient dans le chapitre 16. Là, le Père est celui à qui nous nous adressons, mais nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Cela veut dire que Jésus nous a envoyés auprès de toi parce qu'il a besoin de telle chose. Et dès que nous prenons la chose, Jésus dit c'est pour toi, au fait tu l'utilises. Et ça c'est la voie sacerdotale. Donc nous le faisons en tant que sacrificataire. C'est ce que nous appelons communément la prière. Et la prière s'adresse au Père au nom de Jésus-Christ. Parce qu'à l'église, il y a beaucoup de confusion. Il y a des gens qui prient Jésus au nom de Jésus. Imaginez, je viens devant Ansemantou, j'ai besoin de telle chose, donne-le-moi au nom de l'Ansemantou. Ça n'a pas de sens. Si je demande quelque chose au nom de l'Ansemantou, je dois le demander au pasteur Timothée ou à Papa Mouarabou, mais au nom de l'Ansemantou, donc c'est lui qui m'a envoyé. Lorsque vous priez Jésus et vous demandez à la fin au nom de Jésus, ça veut dire quoi? C'est lorsqu'on est enfant dans la foi, qu'on ne sait pas faire la nuance de toutes ces choses-là, dans les écritures, qu'on est en train d'habituer, de tâtonner, et heureusement qu'il est là pour arranger nos prières. La prière s'adresse au Père. Tout ce que vous demanderez, il dit le Père vous le donnera, à mon nom. Parce que c'est notre droit sacerdotal. Lorsque nous venons au devant de Dieu, nous devenons des sacrificataires. Nous ne venons pas donner les ordres. Nous ne venons pas commander. Nous venons intercéder, nous venons prier, nous venons pour faire connaître à Dieu nos besoins, là étant que sacrificataire. Et c'est de cela que ce texte parle. Mais je voudrais vous faire remarquer quelque chose d'extraordinaire dans ce texte. Sœur Monique, est-ce que tu as remarqué dans ces 2 textes, on ne parle pas de la foi. On ne fait pas mention de la foi. Frère Emmanuel, recommencez-moi. Le premier et le deuxième. Suivez attentivement bien. Suivez bien, Église. Jean 15, verset 16.
Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.
Est-ce que ce verset fait mention de la foi? Ça ne fait pas mention de la foi. Il dit, en fait, ce que vous demanderez au Père en mon nom, qu'il vous le donne. Donc cela ne dépend pas de votre foi, ça dépend de ma foi, de ma relation avec Dieu. Vous demandez en mon nom. Lorsque tu vas demander quelque chose au nom du pasteur respect, donc ce n'est pas toi qu'on prend en compte, c'est lui qu'on prend en compte. La personne peut ou ne pas te connaître. Lorsque tu vas avec un chèque pour encaisser, toi tu n'as pas de compte dans cette banque-là, tu n'as même pas d'argent, on ne te connaît pas. Mais celui qui a signé le chèque, c'est lui qui a l'argent. Et en son nom, on te donne l'argent. Lisez-moi le deuxième pour faire remarquer encore que là, la foi n'est même pas la condition.
En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom.
Ce que vous demanderez au Père, il me le donnera à mon nom. Écoutez, par contre, il y a d'autres versets où Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Là, il implique la foi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Là où Jésus dit tout ce que vous demanderez en priant, il parle aux Juifs qui sont membres de l'ancienne alliance. Ici, il parle aussi à Pierre, mais ce texte a une portée profonde. Parce qu'il dit en ce jour-là, c'est pas encore maintenant. Qui a remarqué ça? Là, il parle lorsque l'église sera constituée, il dit en ce jour-là, vous n'interrogerez plus sur rien. Il parle du futur, il parle de la nouvelle alliance. C'est dans l'ancienne alliance qu'il a dit, tout ce que si vous avez une petite foi comme un grain de sénévé, tout ça c'est dans l'ancienne alliance. Je ne veux pas dire que la foi n'est pas importante. Je ne veux pas dire que vous n'avez pas besoin, vous devez demander au nom de Jésus en doutant ou avec incrédulité. Mais je suis simplement en train d'expliquer que là, ça entre dans la dimension de la famille. Écoutez-moi, mon fils pour manger chez moi à la maison n'a pas besoin de foi. Si tu vois un enfant à la foi, pour que son père lui paye des minéraux, c'est qu'il y a déjà un problème. Autour des moyens de son père ou de sa bonne foi. Normalement, un enfant n'a même pas besoin de foi pour qu'on lui paye des minéraux. Est-ce que je suis en train d'inventer des histoires?
Non.
Qui d'entre vos enfants a besoin de la foi pour qu'on lui achète un habit? Ok, je change ça alors. Frère Coco, écoutez-moi. Qui a eu la foi pour que je vienne prêcher ce matin ici? Qui a eu la foi? Tu sais que Daddy est là, il est en bonne santé. C'est son travail de nous nourrir. Est-ce que ça vous demande la foi pour que je vienne vous prêcher? Non! Il y a des choses que vous vous privez. Oh, je n'ai pas assez de foi. Oh, ça, c'est une affaire de famille. Ce que Jésus dit là, c'est que vous demanderez au Père à mon nom. Donc, il connaît, lui, sa relation avec le Père, ce que ça représente. Et lorsque tu demandes au nom de Jésus, le Père ne te voit même pas. Lui voit Jésus, considère Jésus. Et la foi de Jésus. Parce que la Bible dit, ayant le regard fixé sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est l'alpha et l'oméga de notre foi. D'autres versions disent, c'est lui qui suscite la foi et qui l'amène à l'accomplissement. Papa Nda, écoutez-moi. Lorsque l'enfant prodigue est rentré auprès de son père pour demander pardon et demander une faveur, il avait la foi ou c'était le doute et l'incrédulité? Vous savez, tout le monde connaît la réponse. Il n'avait aucune foi. Il a dit, je lui dirai. Il n'avait même plus la foi d'être récupéré comme fils. Même au niveau de servitude, il n'était même pas certain. Mais lorsqu'il arrive, son père n'a pas écouté ce langage-là. Son père n'a pas regardé son incrédulité, ses doutes, parce que c'est une affaire de famille. Oh mon Dieu, le diable vous fait croire que vous n'avez pas de foi. La Bible dit une portion de foi a été donnée à tout un chacun de nous. Lorsque nous avons reçu Christ, la nature de Dieu qui est en nous, nous a donné une certaine portion de foi. Parce que le risque du diable, c'est de te faire croire, ces choses arrivent, c'est parce que c'est respect. C'est parce qu'ancien à tout. Toi, jamais tu arriveras à ce niveau-là. Non! Ce texte ne fait pas mention de la foi. Ça, c'est le droit des enfants auprès de leur père. Ce que vous demanderez à mon nom suffit. Dieu me considère. C'est moi qui l'exauce. Et vous, au lieu de m'apporter la chose, vous en jouissez. Je vous donne ce droit-là. Mais ça ne s'arrête pas là. L'usage du nom de Jésus, il y a une deuxième voie, c'est ce qu'on appelle la voie royale. Quelqu'un dit avec moi la voie royale. La première voie est une voie sacerdotale. C'est la prière que nous adressons au Père. Mais la deuxième voie est une voie royale. Et remarquez cette différence que plusieurs n'ont jamais vue lorsqu'ils lisent la Bible. Pour eux, Jean 15, Jean 16, c'est la même chose. Et Jean 14. Mais écoutez maintenant attentivement, vous verrez la différence. Jean 14, verset 13 à 14. Suivez bien. Ça, c'est la voie royale pour l'usage du nom de Jésus-Christ.
Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai.
Attendez. Des choses changent dans ce texte-là. Le Père n'est plus celui à qui nous demandons. Le Père n'est plus celui à qui nous demandons. Et cette fois-là, ce n'est plus le Père qui fait. Jésus dit, je le ferai. Lui, il le fera. Recommencez.
Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.
Dans cette histoire, le Père n'attend que la gloire qu'il va tirer du Fils. Et cette fois-là, vous ne demandez pas au Père. Jésus a laissé un vide en disant tout ce que vous demanderez. Que vous le demandez à la nature, que vous le demandez aux démons, aux circonstances ou à la tempête, que vous, il n'a pas dit ce que vous demanderez au Père comme dans Jean 15 et Jean 16. Qui est en train de remarquer cela? Et chaque parole dans les Écritures a sa signification et le bénéfice qu'il accorde. Pour l'enfant, la plupart d'enfants de Dieu, le premier texte qu'on a lu et le deuxième sont les mêmes textes. Réalisez-moi ça, s'il vous plaît.
Et tout ce que vous demanderez à mon nom,
tout ce que vous demanderez à qui, il n'a pas précisé.
Je le ferai.
Je le ferai. Avant, c'est le Père qui vous donnera. Mais maintenant, c'est moi qui le ferai. C'est-à-dire, la deuxième voie, lorsque vous demandez à mon nom, ça m'implique pour l'exécution. Vous m'impliquez pour l'exécution. Je me charge de l'exécution. Tu recommences jusqu'à la fin.
Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai.
Il répète, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Je suis en train de montrer à l'église que ici, dans la deuxième dimension, il n'y a rien qui concerne la prière. Je l'ai dit pour la première fois, la prière s'adresse au Père. C'est pourquoi ici, volontairement, Jésus a exclu le Père de l'affaire. Sinon qu'il vienne à la fin tirer gloire seulement. Donc ça n'a rien à voir à la prière. Ça nous introduit dans le domaine de la domination. Ça nous connecte à l'omnipotence de Dieu qui est contenue dans le nom de Jésus. Là, il est question de déclaration. Il est question des ordonnances. Il est question des décrets. Il est question des arrêtés que vous signez, pas étant que sacrificateur, mais étant que roi. Pourquoi Jésus serait le roi des rois si nous n'étions pas des rois? Le roi sur lequel il règne, c'est pas le roi d'Espagne, c'est pas le roi de Belgique, c'est pas le roi du Maroc, c'est pas ça. Il est le roi des rois, il règne, c'est nous qui sommes des rois, et il est le roi des rois. Dis ce que vous demanderez, à qui je ne sais pas, c'est à vous de trouver. Vous pouvez le demander à une maladie, à un démon. Mais si vous le demandez au nom de Jésus, maladie, libère ce corps. À ce moment-là, Jésus dit, moi je le ferai. Donc je vais m'impliquer dans la chose pour que la maladie obéisse. Frères et sœurs, vous voyez que les agents de l'ordre sont au service de ceux qui ont reçu le pouvoir. Si le procureur général de la République te donne une convocation, il a le pouvoir. On l'appelle procureur général de la République. Il engage la République. Il te donne une convocation. Si tu refuses de venir, il enverra les agents de l'ordre qui viendront te chercher pour refus d'exécution. Lorsqu'il donne des ordres au nom de Jésus et que les démons, les maladies, les circonstances refusent d'obéir, les agents de l'ordre céleste viendront pour que l'exécution soit faite de force. Frères et sœurs, écoutez-moi. Tout ce que vous demanderez, pas au Père, ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Si vous demandez un accident qui est en train de s'achever dramatiquement, toi tu es dedans, tu dis arrête-toi véhicule, il s'arrêtera au nom de Jésus-Christ. Amen. Des enfants qui sont en train de dérailler, Si tu te lèves avec l'autorité, tu parles au nom de Jésus, j'arrête ces vents-là dans cette maison. Que tout le monde revienne à l'ordre. Ils reviendront à l'ordre. Laissez-moi vous dire que les choses, les circonstances, les personnes, les esprits ont des oreilles. C'est pourquoi ils ont des noms. On leur a donné des oreilles parce qu'ils ont des noms. Si tu dis argent, j'ai besoin de toi, déplace-toi, viens vers moi. Jésus dit, je le ferai. Il ira dire à l'argent, tu dois être exécuté. Parce que c'est toi, tu t'appelles dollar ou franc congolais. Mais lui t'a ordonné au nom de Jésus qui est au-dessus des dollars. Et cela viendra. Je vais envoyer l'argent sous la voie de quelqu'un. J'ordonne à l'argent de venir sur ton chemin. Au nom de Jésus. Demande à mon général Anselme tout filmé, ils vont vous dire. Lorsqu'ils font des prières d'autorité, c'est ce qu'ils appellent prières d'autorité. Ils ne ferment pas les yeux. Sinon, à ce moment-là, tu peux recevoir même un coup de poing d'un démon qui agite un corps. Ils le font en regardant. Je suis en train d'insister, cette deuxième dimension n'a rien à voir avec la prière. Ça, c'est l'exercice de l'autorité reçue. Lorsque les ennemis s'élèvent contre toi, ils veulent détruire ta vie, ton travail, ton foyer. Ça, c'est pas le temps de plaire. Ça, c'est pas le temps de plaider devant le Père. Ça, c'est le temps de te tenir dans ta position royale et de commencer à faire des décrets. Au nom de Jésus, que mes ennemis trébuchent, qu'ils se chamaillent, qu'ils entrent en conflit, qu'ils échouent et que leurs projets soient enterrés. Au nom de Jésus. Et cela arrive ainsi. Dieu seul sait. Dieu sait, je passe beaucoup de temps en pleurer. Mais lorsque je pleure, c'est devant Dieu, soit dans l'adoration, soit dans la supplication, dans la prière. Mais lorsque je suis menacé, lorsque des choses ne marchent pas, ça c'est plus le temps de pleurer. Un lion que tu as blessé, il n'a pas le temps de te supplier ni de pleurer. Tu es en train de provoquer sa rage. À ce moment-là, toute sa nature de lion vient en surface. Il y a des choses que tu dois arrêter de toi-même. Il y a des choses que le Père fait, il y a des choses que le Fils fait. Jésus a dit, je ne fais rien de moi-même si c'est que je vois le Père faire. Il y a des choses qui sont dans votre rayon d'activité que vous pouvez régler de vous-même. Vous pouvez prier de vous-même. Frères et sœurs, vous ne savez pas, lorsque vous trouvez quelqu'un malade, alité à l'hôpital, il ne peut plus bouger, tu poses la question, ça fait combien de temps? Ça fait 8 mois que je suis sur ce lit-là. Mais cette maladie a commencé comme un jet. C'était juste des coups là qui étaient bloqués. Il croyait qu'il avait mal dormi. Et puis demain, et puis demain, et puis demain, et puis examen après examen, ça se révèle que c'était quelque chose de grave. Mais pour toi, enfant de Dieu, lorsque quelque chose commence comme ça, tu prends ta propre main. Tu imposes à cet endroit. La douleur a un nom. La douleur a des oreilles. Tu ordonnes, tu dis toi, douleur. Je t'ordonne, quelle que soit ton origine et ta finalité, où tu veux en arriver. Au nom puissant de Jésus, lui, mon corps, tu me dis, et s'il n'obéit pas, comment il n'obéirait pas à cette douleur? Le nom de Jésus a reçu tout pouvoir de faire vivre et de faire mourir. Il n'y a pas de possibilité que ça n'obéit pas. Ça ne peut qu'obéir. Il y a des circonstances que nous avons laissées. Le diable est entré, il a commencé à détruire jusqu'à ce que des choses ont atteint des dimensions où nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe parce qu'on n'a pas pris le temps d'utiliser le nom de Jésus en tant que roi. Pour ordonner, pour commander que des choses puissent arriver, que des choses puissent se faire. Frères et sœurs, l'église doit entrer dans cette dimension-là. Lisez avec moi Marc chapitre 16. Et puis, c'est le dernier texte et nous allons terminer. Marc chapitre 16. Rondo Boshakamana Yande. 17 à 20. Rondo Kumayanda Sandaraba.
Voici les miracles qui accompagneront.
C'est le maître lui-même qui parle, Jésus. Il dit, voici les miracles qui accompagneront.
Ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents.
N'oubliez pas, tout ça est en son nom.
S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris.
Qui me donne un amen? Qui a trouvé la prière dans ce texte-là? Qui a trouvé la prière dans ce texte-là? Il n'y a pas de prière dans ce texte. Ça, c'est la dimension royale. La Bible dit le roi règne par sa parole. S'il n'ordonne pas, s'il ne décrète pas, s'il ne fait pas des arrêtés, rien ne s'exécute. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils nous ont déjà cru. Ils sont nés de nouveau, de nouvelles créatures. Maintenant, voici des miracles qui les accompagneront. À mon nom, ils chasseront les démons. Ça, c'est pas la prière, ça, c'est l'ordonnance. que vous signez pour que des malédictions qui ont lié la famille, ça fait des années, puissent tomber et soient de nul effet. Vous les déclarez au nom de Jésus. Et les malédictions tombent. Parce qu'à la croix, il les a portées lui-même. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Et vous remarquez que personne n'ira prendre le breuvage mortel et dire oh non, je vais boire. Non. Cela veut dire lorsqu'on te présente à boire, même dans une grande cérémonie, où prier c'est embarrassant. Je sais que ça veut dire, dans certains milieux, prier c'est embarrassant. Mais ça te coûte quoi de prendre ton verre et de murmurer, je le bois au nom de Jésus. Si c'est une nourriture, je le mange au nom de Jésus. Et la Bible dit que ça ne vous fera aucun mal. J'ai un frère ici, je ne sais pas s'il a ce culte. Il a été empoisonné. Un médecin juif ici, même à Kinshasa, a vu qu'il avait ses organes vitaux étaient presque à terre. C'était quelque chose de catastrophique. Il est venu un soir, il a partagé avec moi. Je lui ai dit, je vais te donner la Sainte Seine au nom de Jésus. Je lui ai donné le pain et le vin béni. Je lui ai dit, tu manges. Ça va absorber la mortalité qui se trouve dans ces breuvages mortels. Tu ne mourras pas, tu vivras. Il a bu cela. Il vit jusqu'aujourd'hui. Il y a des choses qui détruisent notre foi. Il est vrai que nous devons être prudents, ne pas manger n'importe où, n'importe comment. Mais au-dessus de toutes ces choses-là, le poison, ce n'est pas seulement à manger. Il y en a dans des poignées de voitures, des poignées de bureaux, dans des dessinateurs qu'on vous amène. Ça peut être dedans. Et qu'est-ce que tu feras de ces choses-là? Sinon, croire que ce que Jésus a dit est réel. Un jour, j'étais chez Maman Joss dans sa maison. Et la tante me suppliait, Daddy, ne mange plus partout. Daddy, s'il te plaît, quand tu te promènes, va avec ton micro. Daddy, s'il te plaît, partout, partout. Je suis en train de la regarder, en train de rire. Parce qu'en fait, elle ne savait pas. Lorsqu'elle disait ces choses-là, je venais de rentrer d'un check où on avait trouvé le poison dans mon corps. Donc elle le dit en retard. Le poison était déjà dans mon corps. On l'a trouvé comme aujourd'hui, les toxiques disons. On l'a trouvé dans mon corps, comme aujourd'hui. Je suis allé prier toute une nuit. Je suis retourné. On n'a trouvé aucune trace de ces toxiques. Parce que la parole ne fera pas défaut. La parole ne ratera pas. Lorsque Jésus parlait du breuvage mortel, il a imaginé jusqu'à l'acide que les gens peuvent inventer pour ça détruire, à l'instant. Tout cela est compris. Et sa parole ne passera jamais. Tu ne mourras pas d'accident. Tu ne mourras pas de poison. Tu ne mourras pas de la volonté des hommes. Oh, je suis en train de dire, toute arme forgée contre toi, je le condamne au nom de Jésus. Toute langue qui s'élève contre toi échoue d'avance. Tous ceux qui complotent contre toi, ils ne résisteront pas. Ça, ce sont des décrets que je signe ce matin. Où que tu ailles, tu réussiras. Au nom de Jésus. Levez-vous le matin, dites ça, c'est un jour nouveau que Dieu a créé. Et au nom de Jésus, ce jour me donnera le meilleur de ce qu'il a. Il en sera ainsi. Oh mon Dieu, je profite, c'est le 1er avril. Et j'ordonne au mois d'avril qu'il regarde et qu'il identifie tous ceux qui sont présents à l'auditoire. Et que chaque jour du mois d'avril puisse vous apporter bonheur et grâce. Puisse vous ouvrir des portes. Qu'aucune maladie ne s'approche de toi. Qu'aucun incident ne s'approche de toi. Si 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Tu iras de l'avant. Je le déclare au nom de Jésus. Que le mois d'avril entende ma voix. Chaque jour du mois d'avril, du 1er aujourd'hui jusqu'au 30, avant de sortir de l'éternité, que ce jour amasse toutes tes bénédictions. Qu'il amasse toutes tes faveurs et tes grâces. Et en se pointant le matin, que le soleil t'apporte la bénédiction. Là où tu avais trébuché le mois passé, c'est moi tu feras des exploits. Là où on t'a dit non, on te dira oui. C'est le prophète qui parle avec l'autorité que Dieu lui a donnée. Là où on t'avait dit non, on te dira oui. Les portes qui étaient fermées s'ouvriront. Oh mon Dieu, les gens viendront à tes pieds pour solliciter ta faveur. Parce que Dieu est en train de t'élever. Tu reçois ces choses au nom de Jésus. Oh mon Dieu, tout ce que vous demanderez à mon nom, tout ce que vous demanderez, oh mon Dieu, un homme, un jour s'est levé, parce que le soleil s'est couché, il n'avait pas encore sa victoire. Il a levé sa main, il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Oh mon Dieu, il y a des jours qui ne passeront pas s'ils ne te laissent pas tomber. Je parle du mois d'avril. Il y a des jours qui seront élastiques parce qu'ils ont reçu l'ordre avant de s'en aller de te laisser la bénédiction. Oh mon Dieu, j'ordonne tout celui qui va s'opposer à toi pendant ces mois qu'il trébuche et qu'il fasse des faux. Au nom de Jésus. Karamando shamalarayandosi. Et si tu as d'autres déclarations, ajoute-toi-même pour le mois d'avril. Si tu as des rêves dans ton cœur, des désirs, c'est pas la prière. Ouvre les yeux si tu veux. C'est pas la prière. Tu peux fermer pour ne pas être distrait. Mais parle. Parle. Ordonne. Au nom de Jésus, il s'engagera à le faire. C'est la promesse qu'il a donnée. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il le fera. Toi, donne des ordres. Toi, donne des ordres. N'oubliez pas de dire au nom de Jésus. Et Jésus le fera. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Cela veut dire lorsque les gens verront les résultats que le nom de Jésus a apporté à ta déclaration, ils glorifieront le Père par le Fils au nom de Jésus. Frères et sœurs, tu peux appeler l'argent. Frères et sœurs, tu peux ordonner à cet organisme de t'engager. Tu peux ordonner ta promotion toi-même. Tu peux dire à l'argent, viens. Tu peux dire à une maladie de te quitter. Tu peux parler aux circonstances. Oh mon Dieu, lève ta main droite. Commence à parler au nom de Jésus. Exerce l'autorité. Oh mon Dieu, la Bible déclare. L'exécuteur de la parole de Dieu est puissant. Il y a des exécuteurs là pour exécuter ce que tu déclares. Et moi je déclare. Au nom puissant de Jésus Christ. Que des portes glorieuses te soient ouvertes cette année. Oh mon Dieu, c'est ton année d'accélération divine. Que des choses prennent une vitesse extraordinaire. Oh mon Dieu, ce qui se fait en un mois, que tu le fasses en un jour. Oh mon Dieu, que la nature t'obéit. Entre dans le domaine de la domination. Entre dans le domaine de la domination. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez ceci. Écoutez ceci. La Bible dit dans Hébreux, nous sommes le fils du Dieu qui ramène à la vie ce qui est mort. Mais il le fait au moyen des déclarations. Comme il a dit Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise sur les ossements desséchés. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose qui est mort dans ta vie? Quelque chose que tu as perdu? C'est le temps de les retrouver. Tu vas donner des ordres. Je ne sais pas c'est quoi, qu'est-ce que tu as perdu. Mais il ne revient pas comme tu l'as perdu. Que cela revienne multiplié en qualité et en quantité. Mais que cela revienne pendant ces mois d'avril. Ordonne, décrète, parle. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Branda Sandalabako. Oroboto Samala Makanda. Rabaye Desi. Prikato. Haha. Hey! La chose est en train d'écouter. La chose est en train de t'écouter. Et il est en train de s'exécuter. Parce que c'est au nom de Jésus que tu le dis. C'est au nom de Jésus que tu le fais. Oh mon Dieu. Ce mois sera un mois extraordinaire. Ça t'a trouvé le pied en plein culte. Au nom de... Écoutez ceci. Pas seulement qu'il ramène à la vie ce qui est mort. Mais il appelle des choses qui n'existaient pas. Comme si elles existaient. Et ces choses répondent. Jésus a dit, je ne fais rien de moi-même, sinon c'est que j'ai vu mon Père faire. Les enfants imitent leurs parents, c'est que les parents font, c'est ce qu'ils font. Ton Dieu est celui qui appelle des choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient. Tu as sa nature, tu as le nom de Jésus. Tu peux toi aussi appeler. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux appeler à l'existence. Lève la main droite, on y va, que cela vienne au mois d'avril. Au mois d'avril ici. Si tu viens aller au-delà du mois d'avril, c'est toujours ton choix. On y va. Au nom puissant de Jésus. Que le travail vienne chercher ceux qui sont des chômeurs. Que le mariage vienne chercher ceux qui sont célibataires. Au nom de Jésus. Que les ouvertures soient données. Ceux qui sont des enfants. Nous ordonnons à ces enfants de quitter le monde spirituel de l'éternité. Qu'ils viennent entrer dans les seins de ces mamans. Dans ces foyers qui en cherchent. Nous les déclarons au nom de Jésus. Nous l'ordonnons au nom de Jésus. Que Seigneur des maisons viennent des voitures. Que des postes viennent, Seigneur. Oh mon Dieu. Tout cela au nom de Jésus. Amen. Mettez-vous. Les ambassadeurs sont parmi les gens les plus puissants, pèsent dans tout le pays. De un, il est étranger. Ce pays ne lui appartient pas, mais ce sont les gens les plus puissants. Lorsqu'il fait des déclarations, les gouvernements sont obligés de rétorquer, de parler, d'expliquer. Mais c'est juste un homme. Et je vais vous dire, la plupart des déclarations qu'ils font les ambassadeurs, c'est sans avoir consulté leur gouvernement. Ils les consultent pour des choses très très élevées, mais des choses ordinaires, ils les font. Mais pourquoi ils sont aussi puissants? Et là d'ailleurs, ça dépend de quel pays ils représentent. L'ambassadeur du Burkina Faso n'a pas le même poids que l'ambassadeur de la Grande-Bretagne. Non. Mais vous savez quel est le secret dans tout ça? Parce que le gouvernement et le pays qui le représente leur ont donné le droit légal d'utiliser le nom du pays. C'est pourquoi quand l'ambassadeur de la France parle, on dit « la France a parlé ». Et il a tout le soutien du gouvernement français. Quand je dis le soutien, et l'armée de l'air s'il le faut, et l'armée de terre, et tous les services s'il le faut. C'est ce droit simplement qu'il a reçu d'utiliser. Tu vois, sa maison, il dort. On a écrit « ambassade des États-Unis ». Donc, on lui donne le prérogatif, ce qui lui donne l'immunité qu'on appelle diplomatique. C'est le droit légal qu'il a d'utiliser le nom du pays qu'il représente. Et plus le nom du pays pèse, plus lui aussi pèse. Ça peut être son point de vue, il le déclare. Mais on dit l'ambassadeur tel a dit. Et on voit quel pays il représente. Dites aux voisins, c'est le droit légal qu'ils ont reçu. Dites d'utiliser le nom du gouvernement et des pays qu'il représente. C'est pourquoi la Bible dit que vous êtes ambassadeur de Christ. Quelqu'un a compris? C'est pourquoi tu es ambassadeur de Christ sur la terre. C'est-à-dire tu as le droit légal d'utiliser le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu l'utilises, toutes les forces du ciel sont derrière pour te soutenir. Les gens qui voyagent vont vous dire. Tu arrives à l'aéroport de Dallas, tu vois une petite jeune fille. Une jeune fille, peut-être qu'elle a 19 ou 20 ans. Je vis à Tel Aviv, à l'aéroport de Tel Aviv. Des petites filles. Elle doit avoir 19, 20 ans. Mais quand tu arrives, tout ce qu'il dit, tu t'exécutes de toi-même. S'il dit, enlève la ceinture avant de passer là, tu enlèves vite toi-même. Elle n'a pas d'armes. S'il faut qu'on la laisse, la type, la tabasser jusqu'à ce qu'elle fuit. Mais elle est là au nom du gouvernement de son pays. Elle n'a pas d'armes. Elle n'est pas casta, c'est une petite fille. Mais elle a tout le soutien. Donc si tu essayes, tu apprendras une leçon dans la vie, tu ne recommenceras plus jamais. Donc il y a des gaillards derrière qu'on ne voit pas dans les aéroports. Des vieux voyous qui traitent avec des voyous. Tu dis si tu es voyou, on te sauve des policiers voyous. Et on ne voit pas, ils sont derrière. Mais toi tu vois qu'une jeune fille qui te parle. Si tu refuses de t'exécuter. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu le droit légal d'utiliser le nom de son gouvernement ou de ses services d'immigration. C'est ça le pouvoir. Ça ne demande pas que tu sois licencié. Ça ne demande pas que tu aies 49 ans, que tu sois costaud. Ça, le pouvoir, ce n'est pas dans ce domaine. Ça, peut-être, c'est la force ou la puissance. Le pouvoir, c'est un investissement seulement qu'on te donne. Un droit légal à certaines choses. Et toi, tu es ambassadeur de Christ. J'interdis aux gens de te malmener. J'interdis aux gens de t'écraser. Même si tu travailles pour lui, qu'il te respecte. Parce que tu représentes Jésus-Christ. Quelqu'un a été béni ce matin, cet après-midi. En tout cas, cette semaine, Pascal, tu la commences la tête levée. Là, il n'y avait plus de sourire, tu retournes avec le sourire. Le vendredi, tu as quitté le bureau énervé, choqué, et les gens pensaient que tu vas faire l'hypertension. Le samedi, tu es parti du bureau découragé, mais demain, tu les rentres avec sourire. Sur papier, la situation n'est pas arrangée, mais sur le plan spirituel, c'est déjà arrangé. Parce que tu as le nom qui est au-dessus de tout nom. En quittant ces lieux, en rentrant chez toi, tout au long du chemin, que les démons s'agenouillent. Que les esprits impurs se dégagent de ta route. À cause du pouvoir que tu as, tu vivras au nom de Jésus, tu marcheras au nom de Jésus, tu parleras au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen trois fois que je l'entends.